messieurs, bienvenue dans cette émission « Tous pour le développement urbain de la ville de Bukavu » qui porte sur le projet African City Research Consortium, un programme de recherche internationale financé par le Foreign Commonwealth and Development Office du Royaume-Uni avec la collaboration de l'Université de Manchester qui cherche à générer de nouvelles connaissances pour catalyser des approches intégrées, durables et inclusives des défis du développement urbain. Le programme African City Research Consortium est exécuté dans 12 villes africaines, dont la seule ville francophone de Bukavu, en République démocratique du Congo, où différents chercheurs issus des universités et centres de recherche établis dans la ville de Bukavu essayent d'analyser les dynamiques urbaines de la ville à travers le domaine ou système ci-après, dont Safety and Security, City of System, Help Nutrition and Well-being, Political Settlement, Land and Connectivity. Tous ces domaines sont appuyés par Action pour la paix et la concorde qui est APTEC, c'est-à-dire celui qui mobilise le partie prenante, participe au processus d'identification et d'analyse de problèmes prioritaires en s'assurant de la participation active de toute le partie prenante, y compris le groupe marginalisé. APC participe à ces processus en s'assurant également de la visibilité des résultats de la dite recherche. Et en ce jour, nous sommes dans ces studios avec Monsieur Parfait Boucheboula, chercheur junior à Angaza Institute de l'USDR Bukavu, qui intervient dans le domaine City of System avec un focus sur la distribution de produits alimentaires à Bukavu, mais également avec M. Lionel Bissimwa Matabaro, chercheur au Centre Angaza Institute de l'USDR Bukavu, qui intervient dans le domaine City of System avec un focus dans les systèmes d'approvisionnement en eau potable dans la ville de Bukavu. Mireille Faïla pour la présentation. Merci de suivre la suite de cette émission. Nos deux invités vont devoir nous partager l'évolution même de la dite recherche dans la ville de Bukavu, dans le domaine dont ils interviennent. Alors, messieurs Parfait, où en êtes-vous avec la recherche concernant votre système de la distribution de produits alimentaires dans la ville de Bukavu?
En fait, on s'est rendu compte en fait, qu'il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans le secteur, dont les acteurs étatiques, surtout les services étatiques, dont les institutions publiques, qui sont vraiment très présents sur ce secteur. Mais également, au-delà de ces acteurs, il y a aussi de privés, des institutions privées, par exemple, comme l'a fait, qui est un regroupement de acteurs économiques. Des acteurs en fait, qui offrent les services de produits alimentaires.
Et qu'en est-il pour le système de l'eau, M. Lionel?
Ce que nous avons déjà obtenu comme résultat, nous avons réalisé que les systèmes de l'eau potable dans la ville de Bukavu est constitué de plusieurs acteurs. Souvent, on est habitué à faire référence à la régie des eaux quand on parle de l'eau, mais il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans les systèmes de l'eau potable. Et ces acteurs peuvent être regroupés en deux. Il y a des acteurs non étatiques, c'est-à-dire les différentes institutions, les différents services qui réfèrent ou qui relèvent des différents ministères de l'État, notamment la régie des eaux. C'est un service technique du ministère de l'énergie et hydrocarbures. Il y a également l'Office national d'hydraulique rurale qui relève du ministère du développement rural. C'est sûr que ça paraît un peu curieux de comprendre comment est-ce qu'un service du ministère du développement rural peut intervenir dans la ville, mais comprenez que c'est un acteur aussi clé. Et d'ailleurs, il intervient beaucoup dans les activités de forage dans la ville de Bukavu. Et les exemples sont nombreux. Parce que l'ONHRAE est intervenu dans les forages au collège Al-Fadjir. Il est intervenu pour les forages au niveau de l'hôtel New Riviera. Également, dernièrement, il est intervenu dans le cadre du forage au niveau du stade de Founou, bien évidemment. Et enfin, on a un autre service étatique qui est le comité provincial d'action de l'eau, hygiène et assainissement. Mais vous allez comprendre que dans la pratique, il y a chevauchement d'attribution entre ces différents services de l'État. En plus de cela, il y a des services qui sont d'autres acteurs qui ne sont pas régis par l'État, qui pas dire ne sont pas régis par l'État, qui ne sont pas publics, alors j'allais dire, mais qui interviennent aussi dans le secteur de l'eau. Par exemple, il y a des ASBL, des ONG, il y a des sociétés privées qui produisent l'eau minérale, comme vous le savez. Au-delà des acteurs, on a réalisé que au niveau de l'infrastructure, on est toujours habitué à voir seulement la régie des eaux comme acteur clé dans la distribution de l'eau. Mais il y a d'autres acteurs, notamment, nous avons fait allusion au SICASH, qui est aussi un acteur qui distribue de l'eau dans le quartier CASH. Il y a un autre acteur au niveau du quartier Tchaï. Il s'agit des missionnaires xavériens qui puissent de l'eau à partir d'une source là à Moudoussa. Et au-delà de l'infrastructure, nous avons également abordé les aspects de la gouvernance. On a réalisé qu'au-delà de ce que nous voyons, la régie des eaux raccorde les ménages, les sociétés et d'autres acteurs, les industries comme la Bralima, la Pharmakina, il y a une autre forme de gouvernance que nous avons voulu mettre en exergue en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable.
C'est quoi l'apport du système de distribution de produits alimentaires dans cette recherche pour la ville de Bukavu?
L'apport de ces systèmes, en fait, pour la ville de Bukavu, c'est d'abord, l'étude a permis de comprendre le fonctionnement du système, comment les systèmes fonctionnent, qui sont les acteurs. En plus, identifier les différents défis que connaissent la ville de Bukavu en termes de distribution de produits alimentaires, parce qu'on s'est rendu compte au fait que la ville de Bukavu est approvisionnée par plusieurs milieux, dont d'un côté le milieu rural, bien que les productions ont baissé au cours de l'année à cause de... Bon, il y a beaucoup des aspects qui expliquent cela. Il y a par exemple l'insécurité, il y a le délabrement des routes de dessertes agricoles, il y a les questions climatiques, il y a l'infertilité du sol, qui tout ça en fait qu'il n'y ait plus vraiment de grandes productions qui quittent par exemple le milieu rural vers la ville de Bukavu. Et on se tourne déjà vers les importations par différents pays, dont le pays voisin, et jusque même en Asie avec la Malaisie, l'Inde, et ainsi de suite. Et aussi, tout ça nous a permis de relever les différents défis d'approvisionnement de produits alimentaires dans la ville de Bukavu pour que ces défis soient capitalisés et en termes des actions à implémenter pour la prochaine étape. En fait, au niveau de l'accès, on s'est rendu compte au fait que le système est marqué par le système informel, où la plupart des acteurs qui interviennent œuvrent dans l'informel, où plus de 50% fonctionnent dans l'informel. Et cette informalité profite beaucoup aux acteurs, aux services étatiques, parce que, comme on le sait très bien, que les institutions publiques, les services publics sont marqués par un certain dysfonctionnement, où d'un côté ils n'ont pas de frais de fonctionnement, ils ont des salaires vraiment pas intéressants, et cela fait en sorte qu'ils se retrouvent sur un terrain où ils doivent se débrouiller. Et donc les acteurs qui offrent le service de produits alimentaires se retrouvent confrontés par une fiscalité qui déborde au fait leur façon de travailler. Donc il y a les tracasseries par les services étatiques qui font à ce que l'accès demeure d'un côté limité pour certains acteurs, surtout ceux qui n'ont pas de moyens suffisants pour investir dans ce secteur. À part ça, un autre élément qui marque au fait l'accès, l'inflation qui est vraiment très, très problématique et qui fait en sorte que depuis un certain moment, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, les prix des produits alimentaires ne font qu'augmenter. Il y a le taux de change qui ne fait que varier de tout le jour. Aujourd'hui, on est à 2300, 2350, alors qu'il n'y a pas longtemps qu'on était à 2000. Mais également, il y a l'insécurité qui est aussi un aspect très important et qui fait en sorte que aujourd'hui, par exemple, avec la guerre au Nord Kivu, il y a une difficulté d'accès à beaucoup de produits alimentaires qui venaient du Nord Kivu, ce qui est vraiment très problématique et crée des contestations sur le marché.
Et qu'est-ce que le système de l'eau apporte même dans cette recherche?
L'eau, c'est la vie, comme on l'a toujours dit. Et c'est la vie parce qu'elle est indispensable à la vie humaine. Comme vous le savez, l'eau ne rend pas seulement un bon service, elle rend aussi un mauvais service. Parce que lorsque vous prenez une eau qui n'est pas bien traitée, vous vous exposez à certaines maladies. C'est pourquoi nous avons pensé que le système de l'eau nécessite d'être pris en compte dans le cadre de cette étude qui porte sur la dynamique urbaine. Et du coup, on s'est posé quelques questionnements. Notamment, on veut comprendre comment fonctionne le système de l'eau dans la ville de Bukavu. On veut également expliquer de quelle manière, on veut expliquer les facteurs qui expliquent les dysfonctionnements du système d'approvisionnement en eau dans la ville de Bukavu. En plus, on veut évaluer dans quelle mesure les politiques et la politique interfère ou influence les systèmes de l'eau potable dans la ville de Bukavu. Et enfin, on veut également identifier les changements intervenus ou remarqués dans le cadre de ces systèmes de l'eau potable dans la ville de Bukavu. Oui, comme vous le savez, c'est une recherche qui nécessite aussi une méthodologie appropriée. Dans le cadre de cette étude, on a fini d'abord la revue documentaire qui était intitulée comme la DESCEPHASE. Nous sommes maintenant dans le cadre des collectes de données et nous avons mobilisé certaines techniques, notamment les entretiens individuels que nous sommes en train de faire avec certains informateurs clés.
Et quels sont les défis que vous aviez déjà relevés dans les systèmes de distribution de produits alimentaires?
Le délabrement de routes de dessertes agricoles. Parce que ce n'est pas à dire que les milieux ruraux ne produisent plus de produits alimentaires, parce qu'il y a quand même certains résultats de terrain qui ont démontré qu'il y a beaucoup de production de la plante de la rosésie, mais qui n'arrive plus directement dans la ville de Bukavu, mais passe à travers le Rwanda. Le Rwanda qui a un système de transformation de certains produits alimentaires qui transforment par exemple le maïs. Puis on nous revend déjà à l'état fini, mais à un prix déjà très élevé. Et beaucoup de produits transitent par le Rwanda, comme certains produits du Nord Kivu qui transitent par le Rwanda. Et transformés, une partie est transformée et une autre partie nous arrive à l'état toujours brut. Et tout ça font assez que il faudrait que, par exemple, dans le milieu rural, on puisse penser à la réhabilitation de certaines routes de dessertes agricoles, bien qu'aussi on ne peut pas se passer de l'importation de certains produits alimentaires parce que tout cela est complémentaire.
Mais est-ce qu'au niveau local, vous proposez des stratégies de production des aliments à entreprendre, bien sûr, pour arrêter carrément avec cette importation des aliments dans la ville de Bukavu?
Là, je dois être vraiment bien clair. Ce n'est pas qu'on ne produit pas. Parce que dans la cartographie, déjà, au niveau où nous en sommes, on a déjà cartographié quand même certains produits alimentaires qui viennent encore de milieux ruraux. Ça veut dire au moins chaque territoire produit encore quelque chose. Ce n'est pas que nous dépendons uniquement des importations. Et d'ailleurs, c'est là qu'on doit déconstruire l'idée, une hypothèse disant que nous sommes nourris par la ville de Bukavu et nourris par le Rwanda. Or, c'est faux parce que beaucoup de produits, par exemple de la plante de la Ruzizi, de l'île d'Idjui, aussi sur le littoral, au niveau de Calais et Kabare, entre facilement au Rwanda. Et puis le Rwanda qui a cette politique de transformation des produits, qui essaie de transformer les produits sur place et nous ramène le même produit. Et au-delà même de ça, il y a certains produits, par exemple du Rwanda. Le Rwanda s'approvisionne ailleurs vers d'autres pays voisins pour nous amener ces mêmes produits, pensant que ce sont des produits peut-être qui sont directement produits au niveau du Rwanda. Ce qui fait qu'il y a encore de production dans les milieux ruraux, mais il y a le défi des routes que je parlais, des routes de dessertes agricoles qui sont en mauvais état. Il y a aussi l'insécurité qui fait en sorte, qui fait tout ça produire l'improductivité. Et ce qui fait qu'on a plus, on ne reçoit plus des quantités suffisantes sur, dans la ville de Bukavu. Et d'ailleurs, la plupart de ces produits importés ne sont pas appréciés au niveau de la qualité, parce qu'ils sont jugés OGM avec l'utilisation des engrais chimiques, les semences améliorées, contrairement aux produits cultivés dans le milieu rural, qu'on considère encore bio, mais qui ne sont pas en quantité suffisante sur le marché par rapport à la demande. C'est à ce niveau-là qu'il faut comprendre qu'on produit, mais pas vraiment en quantité intéressante et qu'on devrait penser, repenser les politiques au niveau local, comment améliorer le secteur agricole. Il y a ce qui revenait beaucoup plus, c'est la réhabilitation, la construction par exemple des routes de dessertes agricoles pour que toutes ces productions nous arrivent facilement dans la ville. Et c'est là aussi peut encourager les agriculteurs locaux de produire plus pour pouvoir approvisionner la ville. Il y a un autre aspect au fait qui revenait, c'était la réforme de la fiscalité, parce que les acteurs qui offrent les services alimentaires sont frappés par une fiscalité qui ne permet pas ça qu'ils continuent à investir ou à se retrouver dans ce qu'ils font. Il y avait aussi une autre recommandation qui allait dans le sens de réhabiliter le marché et même construire d'autres, parce qu'on se rend compte, lorsqu'on se promène sur toutes les artères de la ville de Bukavu, il y a des petits commerçants qui étalent leurs produits par terre avec tous les risques possibles. Donc ce sont là déjà certaines informations, recommandations qui revenaient auprès des informateurs clés. Mais aussi, ce que je ne dois pas oublier, c'est aussi l'aspect de l'insécurité qui freine en fait le secteur agricole dans nos milieux ruraux. Et je pense au cours de notre étude, comme on n'a pas encore fini, il y aura toujours d'autres recommandations qui viendront et des stratégies qui seront mises en place pour arriver à implémenter toutes ces propositions-là.
Et là, vous parlez de tous les produits alimentaires ou vous avez juste spécifié quelques produits nécessaires ou bien quelques produits de base consommés par la population même de la ville de Bukavu?
Enfin, vraiment, il s'agit bien de tous les produits alimentaires, mais qui sont classifiés, parce qu'il faut à la fin qu'on sache le type de produit, leur lieu de provenance, qu'est-ce qui nous arrive en termes de quantité. Et ce qui est intéressant est qu'on a encore une deuxième partie où on va chercher toutes les informations complémentaires par rapport aux informations qu'on n'a pas encore eues, qui nous permettra en fait de comprendre toute cette complexité de produits alimentaires.
En quoi est-ce que ces systèmes riment avec d'autres domaines ou systèmes de la recherche?
Oui, c'est très intéressant. Les systèmes de distribution de produits alimentaires et par exemple en lien direct avec le domaine de land and connectivity, où on se rend compte au fait que certains milieux ruraux sont actuellement déconnectés de la ville de Bukavu à cause de routes. Ce que je dis précédemment, que l'état des routes actuellement fait en sorte que l'état des routes des dessertes agricoles fait en sorte que certains milieux ruraux sont directement déconnectés de la ville de Bukavu. On peut citer par exemple Shabunda, où depuis très longtemps, les produits alimentaires de Shabunda ne nous arrivent plus vraiment en quantité intéressante.
Et c'est quoi le perspective d'avenir pour le système de l'eau?
En ce qui concerne les perspectives, comme je l'ai dit, l'étude en question porte sur la ville de Bukavu, mais il y a une petite représentativité que nous sommes en train de vouloir mettre en exergue au niveau de toutes les communes. À ce stade, la commune, on n'a pas encore effectué beaucoup d'entretiens avec la population de la commune d'Ibanda et on n'a pas également effectué les focus groups et les entretiens avec les acteurs, les cadres de base de la commune d'Ibanda. Et par rapport à cette conflictualité que nous étions en train de dire au sujet de l'addiction de Mazigiro, on n'a pas encore eu suffisamment d'informations, on n'a pas eu les sons de cloche de tous les acteurs pour essayer de les confronter et voir dans quelle mesure ça peut contribuer à notre analyse sur la political settlement. Quelles sont les formes d'arrangement politique qu'il y a autour de cette question? Comment est-ce que les acteurs au niveau de Kinshasa et au niveau de la province interagissent sur cette question? Quels sont les arrangements qu'ils ont déjà conclus? On n'a pas encore eu suffisamment d'informations là-dessus.
Et pour le système de distribution de produits alimentaires?
Oui, ce qui reste à faire, il y a, je pense, trois éléments. Le premier, c'est de cartographier les acteurs, tous les acteurs vraiment qui interviennent dans les systèmes de distribution de produits alimentaires, afin de savoir qui fait quoi, qui apporte ceci, qui contribue ceci, et quels sont aussi peut-être les acteurs puissants. Un deuxième élément, c'est d'approfondir en fait la question des arrangements politiques, pour savoir en fait. Parce qu'on a un cas illustratif qu'on a documenté des arrangements politiques était le contrat de partenariat public-privé, qui est un partenariat, je dirais, très politique, où on retrouve des arrangements avec les acteurs politiques et d'autres et des acteurs économiques pour pouvoir profiter du système et protéger leurs intérêts. Ça, c'est un deuxième élément qu'on va encore approfondir. Mais également, Le dernier élément, c'est par rapport à la documentation qui va nous permettre fait, d'analyser certaines données de terrain et pour pouvoir aussi confirmer certaines informations qu'on a eues auprès des acteurs.
Et quelles sont les difficultés rencontrées pour avoir des données fiables vous permettant d'avancer même dans vos recherches?
Et nous sommes heurtés à la lourdeur administrative de certains acteurs qui ne nous ouvrent pas la porte au moment que nous essayons de toquer pour avoir les informations. On n'accède pas également à la documentation comme on l'aurait souhaité. Et il y a aussi les méthodes que nous sommes en train d'utiliser souvent, les focus groups, ne nous paraît pas très adapté au contexte social de la ville. Vous savez comme moi qu'en ville, les gens sont toujours occupés et ils n'ont pas souvent le temps pour se rendre disponibles et participer au focus group, ce qui nous demande beaucoup de gymnastique et d'improvisation à un certain moment, alors que le focus group est très intéressant lorsque on choisit les acteurs qu'il faut interroger. En plus de cela, nous nous heurtons aussi à la difficulté qui est liée à la contextualisation. Voilà, à l'interprétation des concepts de l'étude dans les langages couramment utilisés ici chez nous. Vous voyez que nous avons des outils qui ont été réfléchis dans le contexte occidental. Maintenant, il faut les expérimenter dans les contextes d'ici chez nous, ce qui n'est pas toujours aisé et ce qui nous rend la tâche difficile.
La grande difficulté qui vient très souvent est que il y a l'indisponibilité de certains informateurs clés qui ne sont pas vraiment disponibles pour nous donner le temps. Mais heureusement, le projet aussi a une particularité avec l'équipe Uptake qui aide au fait à nous faire accéder à certains informateurs clés qui ne sont pas aussi facilement joignables. Ce qui revient dans le rôle de l'équipe Uptake. Et ça facilite quand même d'accéder à de rencontrer certains acteurs.
Un message pour les acteurs clés.
En fait, ce que je peux dire, c'est sûr que nous sommes tous, nous, parmi nous, il y a les gens qui sont nés à Bukavu et nous aimons la ville de Bukavu. Mais souvent, les gens s'intéressent et à d'autres dynamiques, surtout les dynamiques rurales, alors qu'il y a de la matière qui peut être analysée et étudiée au niveau de la ville et qui peut également orienter les politiques et les projets ou les stratégies de développement au niveau de la ville. C'est pourquoi je voulais solliciter encore une fois, comme on l'avait fait lors du lancement de ces projets, je voulais solliciter aux uns et aux autres qui seront sollicités pour les focus group, les entretiens individuels, d'ouvrir leurs portes et de fournir les informations correctes qui transpirent la réalité et de la ville de Bukavu, parce que nous sommes dans un projet qui va aboutir à des actions concrètes de plaidoyer, mais lorsque ils s'inscrivent dans la réalité, ça peut produire aussi des résultats qui ne sont pas en déphasage avec les contextes de la ville.
Et c'est sur ces messages que nous mettons fin à cette émission. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Mireille Faïla, j'étais à la présentation.